Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Stéphane Place.
Grande prudence, non pas qu'on n'ait pas envie d'avertir les Français que le confinement serait amené à durer, mais parce que cette réponse, nous ne l'avons pas. Nous sommes là dans des estimations.
La réaction du ministre de la Santé après la recommandation du Conseil scientifique de prolonger le confinement, 6 semaines minimum, disent ses experts. La barre de 1000 morts du coronavirus franchie ce soir en France. En première ligne, les EHPAD où les décès se multiplient. Dans ce journal, le reportage de Pauline Jacquot. Après l'Italie qui voit aujourd'hui le nombre de décès repartir à la hausse, c'est l'Espagne qui est le deuxième pays d'Europe le plus touché.
On n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, mais on a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et donc, ça nous oblige à prendre une perspective de médecine militaire.
Il était l'un des deux papas avec René Goscinny d'Astérix et Obélix. Albert Uderzo, dessinateur de génie, nous a quittés à 92 ans.
Mon père et Albert, on pense qu'ils ont créé une œuvre, mais très bien plus qu'une œuvre, ils ont créé un mythe.
Et puis comme tous les soirs, vous retrouverez l'invité écho d'Emmanuel Duteil. Il reçoit ce soir le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Nous ferons également le point sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Sans oublier un tour d'horizon des unes de la presse demain.
Europe 1.
1100 décès causés par le coronavirus, c'est le dernier bilan dressé ce soir par la Direction Générale de la Santé. Plus de 10 000 patients sont hospitalisés dans le pays. Dans ces conditions, il est indispensable de prolonger le confinement. C'est la recommandation que le Conseil scientifique fait ce soir au gouvernement. Pas franchement une surprise. Écoutez la réaction du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Le Conseil scientifique s'est exprimé en donnant une estimation. Je parle bien d'une estimation parce que si vous posez la question à tous les membres du Conseil scientifique, personne n'est capable de vous dire avec précision si le confinement doit être de temps, de telle durée ou de telle durée. Encore une fois, grande prudence. Non pas qu'on n'ait pas envie d'avertir les Français que le confinement serait amené à durer, mais parce que cette réponse, nous ne l'avons pas. Nous sommes là dans des estimations. Le confinement, il a une vocation, protéger les Français. Tant qu'il devra durer, il durera. Si nous avons la possibilité de lever le confinement plus tôt, nous le ferons évidemment, il n'y a pas de raison de poursuivre dans la durée.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, un conseil scientifique auquel ne participe plus le professeur Raoult qui a choisi de se mettre en retrait. Il s'agit, vous le savez, de ce médecin dont les préconisations pour un traitement à la chloroquine des malades du Covid-19 font polémique. Les EHPAD, frappés de plein fouet par l'épidémie, nos aînés sont particulièrement vulnérables, fragiles. Les résidences pour personnes âgées qui redoutent une catastrophe mettent en œuvre depuis plusieurs semaines des mesures barrières très strictes, suppression des visites, gel hydroalcoolique, masques, mais Pauline Jacquot, les décès se multiplient dans les Vosges, en Haute-Savoie aussi.
Oui, une situation particulièrement dramatique dans certains établissements. 16 personnes sont décédées dans l'EHPAD de la Fondation Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris. Selon le Parisien, la plupart étaient âgés de plus de 90 ans et atteints de pathologies lourdes. C'est en ce moment une situation extrêmement dure, dit la direction. Nous sommes mobilisés pour tenter d'y faire face. En Haute-Marne, l'EHPAD de Saint-Dizier compte lui 13 morts, la plupart à cause du coronavirus. Et dans les Vosges, ce sont 20 résidents d'un EHPAD de Cornimont qui sont décédés. La sœur de Roger Brissinger fait partie des victimes.
Ma sœur avait de la fièvre. Quoi. Je téléphonais tous les 2 jours et ça allait en s'empirant, c'était sûr. Oui. Le problème, c'est que on ne sait pas pourquoi que ça est arrivé là. Hein. J'espère pas que ça vient de Strasbourg, que ça vient de Mulhouse. Hein. Mais enfin, ça se peut aussi hein, que ça vienne de là. Ça fait sûrement assez longtemps que le virus est là. Hein.
Sur les 20 personnes qui sont mortes dans cette EHPAD des Vosges, 4 étaient diagnostiquées positives au coronavirus. Les tests sont évidemment loin d'être systématiques dans tous ces établissements. Les agences régionales de santé sont en train d'essayer d'avoir une idée très précise de la situation en récoltant les données parmi les différents établissements présents sur leur territoire.
Merci Pauline Jacquot. Demain, Emmanuel Macron se rendra à Mulhouse. Le président de la République y visitera l'hôpital de campagne construit par les militaires, un ensemble de tentes dotées de tous les appareils médicaux où a été accueilli le premier patient aujourd'hui. De nouveaux moyens pour désengorger les services de réanimation surchargés, en particulier dans l'Est de la France. Donc, un TGV médicalisé va évacuer des malades du coronavirus de Strasbourg et de Mulhouse vers des régions moins touchées par l'épidémie. C'est une première, Aurélien Fleurot.
Oui, ce TGV partira demain matin depuis la gare de l'Est à Paris pour permettre l'évacuation de 20 patients qui sont actuellement en réanimation dans des hôpitaux de la région Grand Est. Et ce train sanitaire partira ensuite jeudi matin de Strasbourg en direction des Pays de la Loire. Ces patients seront accueillis par les CHU d'Angers, de Nantes, du Mans et de La Roche-sur-Yon. À bord de ce train, dans chaque voiture, il y aura 4 patients avec à chaque fois une équipe médicale de 5 soignants, dont un médecin anesthésiste réanimateur. Le tout coordonné par les équipes du SAMU de Paris, qui avait réalisé au mois de mai l'année dernière un exercice de médecine de catastrophe, en l'occurrence une simulation d'attentat, pour valider ce nouveau concept, l'unité mobile hospitalière et ferroviaire. Lors de cet exercice, des civières étaient installées au-dessus des sièges où les passagers s'assoient habituellement. La voiture-bar était devenue le lieu où l'on centralise les décisions. Et puis ces trajets, qui sont inédits à ce stade, pourront se reproduire à chaque fois qu'il y en aura besoin.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Partout, la pandémie progresse et le monde se cloître avec le confinement total de l'Inde qui est effectif ce soir pour 3 semaines. Ce sont au total plus de 2,5 milliards de personnes qui doivent rester chez elles, un tiers de l'humanité. Après 2 jours de baisse aujourd'hui, bien malheureusement en Italie, le nombre de malades tués par le Covid-19 repart à la hausse avec 743 morts. Deuxième pays le plus touché en Europe, l'Espagne. Henri de la Guérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Barcelone, où les décès se comptent par centaines.
Oui, vous savez, l'Espagne a une semaine de retard sur l'Italie et 4 ou 5 jours d'avance sur la France. Alors, même si les chiffres sont impressionnants, 2000 personnes sont déjà décédées. Malheureusement, ils ne surprennent pas ici. La pression sur les hôpitaux ne cesse de s'accentuer. J'ai pu joindre Félix Del Ojo, il est médecin urgentiste à Almeria, en Andalousie. Il est en première ligne face à l'épidémie. Hier, il n'a pas réussi à réanimer un malade de 45 ans qui était en arrêt cardiaque lorsqu'il est arrivé à son domicile.
Nous sommes dans une situation comparable à une catastrophe. C'est dur parce que nos moyens sont absolument dépassés par le numéro de personnes. Désormais, il faut faire un tri beaucoup plus drastique. Pourquoi ? Parce que on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, mais on a beaucoup de gens qui aussi ont besoin d'aide. Et donc, ça nous oblige à prendre une perspective de médecine militaire.
L'armée, justement, est déployée dans tout le pays. Elle construit des hôpitaux de campagne. Le pic de contamination n'est pas attendu avant la fin de la semaine. Et d'ici là, le nombre de décès va s'accélérer. À Madrid, une patinoire a été transformée en morgue pour entreposer les corps des victimes. Dans ce panorama très sombre, l'Espagne se raccroche au seul chiffre réconfortant, celui des personnes guéries. Près de 4000 patients ont surmonté la maladie.
Henri de la Guérie, le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Alors qu'aux États-Unis, on déplore une accélération des décès, 600 morts principalement à New York, Donald Trump manifeste lui son impatience. Il faut retourner au travail beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent, a-t-il déclaré. Trump adorerait, c'est lui qui le dit, rouvrir le pays d'ici Pâques. La pénurie des masques, les quantités insuffisantes de gel hydroalcoolique pour satisfaire toutes les demandes et le manque aussi de bouteilles d'oxygène médical. Une seule usine en produisait en France et même en Europe, c'est l'usine Luxfer dans le Puy-de-Dôme. Problème, elle a été fermée par sa direction britannique en mai dernier. Aujourd'hui, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon notamment réclament sa nationalisation. Jean-Luc Boujon, c'est aussi ce que veulent les anciens salariés.
Oui, absolument, car cette production de bouteilles d'oxygène médical importante en temps normal est devenue stratégique depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Ces bouteilles, ce sont tout simplement les malades souffrant de problèmes respiratoires qui en ont besoin, lors de transferts pour des respirateurs portatifs ou quand on installe une structure hospitalière provisoire et qu'il n'y a pas de réseau d'oxygène. On pense ici par exemple à l'hôpital de campagne de Mulhouse. Or, Luxfer Gerza était le seul fabricant européen de ce genre de bouteilles, était... car effectivement, l'usine a fermé il y a 16 mois, décision de son propriétaire anglais, alors qu'elle était parfaitement profitable. Mais elle peut très vite repartir, assure son délégué CGT Alex Peroncic, qui a occupé les locaux jusqu'à vendredi dernier pour empêcher la destruction de l'outil de production par son propriétaire.
Tout est laissé en l'état, les locaux, il y a les machines. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on bloque et qu'on empêche la destruction de notre outil de travail. Donc c'est prêt à repartir, il nous faut juste tout ce qui est homologation et puis l'approvisionnement en matières premières et on peut y aller. Le président l'a dit lui-même, ça serait une folie de laisser partir certaines productions, notamment la protection et le médical du territoire français et européen. Nous, on rentre totalement dans ce cadre-là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on doit rester sur le territoire et être placé en dehors des lois du marché.
Voilà, appel lancé au gouvernement et en particulier au ministère de l'économie qui en ce moment examine tous les cas de ces entreprises devenues stratégiques avec la plus grande attention.
Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. 1600 détenus en moins depuis la mi-mars dans les prisons françaises. C'est la garde des Sceaux cet après-midi qui a expliqué cette baisse de la population carcérale par la diminution de l'activité judiciaire et par l'augmentation des aménagements de peine pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires. Au lendemain des annonces du Premier ministre durcissant les conditions du confinement, Guillaume Didier appelle ceux qui sont au chômage partiel à cause de la crise sanitaire à rejoindre, je cite, la grande armée de l'agriculture française. C'est ce que dit le ministre de l'Agriculture, des agriculteurs privés de la main-d'œuvre qu'ils emploient habituellement pour les travaux des champs. De son côté, après avoir fermé les marchés, Édouard Philippe, le chef du gouvernement, compte sur le patriotisme économique de la grande distribution pour soutenir les producteurs. Il faut dire que l'économie française est sérieusement malmenée par cette pandémie. Coup de frein pour la croissance nationale avec un recul d'au moins 1% par rapport aux prévisions. Le ministre de l'Économie s'efforce de rassurer les entreprises. Bruno Le Maire veut les aider à passer le cap et protéger les salariés, Emmanuel Dutheil.
Oui, pour Bruno Le Maire, la crise actuelle est comparable à celle de 1929. Les mots sont bien évidemment très forts et du coup, pour traverser cette crise, le gouvernement veut limiter au maximum les licenciements. C'est pour cela que le chômage partiel a été étendu. Plus de 700 000 personnes sont déjà concernées. Pour ceux qui arrivent ou qui sont obligés d'aller au travail, le gouvernement souhaite que les entreprises de toute taille versent des primes et notamment utilisent la fameuse prime Macron de 1 000 euros défiscalisée. Les petites entreprises ne seront pas obligés de lancer un plan d'intéressement pour en faire profiter leurs salariés. Cette obligation vient d'être levée. Le gouvernement enjoint par ailleurs les entreprises à aider plutôt les salariés que les actionnaires. Les fameux prêts garantis par l'État pour aider les entreprises seront par ailleurs disponibles dès demain auprès des banques. Sur Europe 1, à la mi-journée, un des dirigeants de BNP Paribas disait que les entreprises les plus en difficulté seraient servies en priorité. Enfin, le gouvernement dit avoir établi une liste d'entreprises industrielles qui auront certainement besoin d'un soutien financier de l'État, par exemple via une nationalisation.
Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Le trafic TGV encore revu à la baisse dès le week-end prochain. La circulation des trains va tomber à 7% de l'offre habituelle. On va passer de 90 à 40 TGV par jour. L'objectif, bien sûr, c'est de limiter les déplacements. Voyager pour aller se confiner en province n'est pas un motif valable, prévient le secrétaire d'État au transport qui promet des contrôles dans les gares. C'est une initiative de la métropole de Châteauroux pour aider les routiers à effectuer les trajets si précieux pour notre approvisionnement. Ce soir est ouverte une aire de repos provisoire avec des toilettes, des douches et pouvant accueillir donc dans la région de Châteauroux 150 camions. C'est le plus grand événement sportif de la planète. Il n'aura pas lieu cet été. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont décalés d'une année. Seules les deux guerres mondiales avaient empêché jusqu'à présent le déroulement des épreuves. Mais on voyait mal, Corinne Boulou, comment maintenir ce rendez-vous dans le contexte actuel. La raison l'a emporté. La question a été tranchée dans l'après-midi.
Oui, effectivement, c'est un échange téléphonique entre le Premier ministre Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et le patron du Comité international olympique, Thomas Barr, qui a fait basculer cette décision vers un report historique. La pression était devenue forte ces dernières 48 heures de la part des poids lourds de l'olympisme, comme le Comité olympique américain ou la Fédération internationale d'athlétisme, favorable à ce report. Le choix a donc été de reporter d'un an les Jeux au plus tard, à l'été 2021. C'est donc un choc, bien évidemment, pour le Japon, qui se préparait depuis 7 ans à accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Mais ils étaient nombreux à attendre cette annonce, comme me l'a confirmé Florent Manaudou, champion olympique à Londres, vice-champion olympique à Rio, sorti de sa retraite il y a un an pour reprendre le chemin des bassins afin de viser l'or à Tokyo. Florent Manaudou, plutôt soulagé donc.
C'est la meilleure décision qui a été prise. On était un petit peu dans l'attente depuis... Un peu plus d'une semaine, voire même un petit peu plus. C'était dur d'essayer de s'entraîner et de se dire peut-être que les Jeux sont dans 4 mois et qu'on ne sera pas prêt. Mais ce sera que positif. Moi, j'aurai un an de plus pour me préparer. C'est bien.
Voilà, un Florent Manaudou confiné dans son appartement à Marseille qui continue comme il le peut de s'entretenir physiquement pour être présent l'an prochain à Tokyo, comme bon nombre d'ailleurs de champions en mode pause en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus.
Merci Corinne Boulou. Après l'Euro de football et donc les JO de Tokyo, le Tour de France reste donc le dernier des grands événements sportifs maintenus. Mais c'est vrai qu'à moins de 100 jours du grand départ de l'édition 2020, programmée le 27 juin à Nice, la pandémie pose des questions. Irréductible et génial dessinateur d'un petit Gaulois qui refusait de rendre les armes devant l'envahisseur romain, Albert Uderzo a posé définitivement son crayon. Avec son compère scénariste René Goscinny, il avait créé en 1977 Astérix. Albert Uderzo nous a donc quitté la nuit dernière, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans. Mathieu Charrier, vous êtes le spécialiste de la bande dessinée sur Europe 1. Les aventures d'Astérix et Obélix ont marqué nos enfances et accompagné nos premiers pas dans le bonheur de la lecture.
Et pour cause, il s'est vendu dans le monde près de 400 millions d'exemplaires d'Astérix, beaucoup plus que Tintin par exemple. Albert Uderzo, éternellement indissociable de René Goscinny. Goscinny aimait la ville, Uderzo la campagne. Goscinny détestait les animaux, Uderzo avait des chiens, des poules, et pourtant ces deux-là étaient inséparables. À leur rencontre à la fin des années 50, ils imaginent d'abord les aventures d'Oumpapa, un petit indien. Mais très vite, Goscinny a l'idée d'un irréductible petit gaulois réfractaire. Astérix est né, Uderzo aime raconter qu'il lui a soufflé l'idée d'Obélix, c'est ça qui fera le succès de la série. Deux personnages qui passent leur temps à se chamailler, à se répondre. Alors quand René Goscinny décède prématurément d'une crise cardiaque en 1977, Uderzo est terrassé, il veut tout arrêter. Devant l'insistance des fans, il reprendra la série seul. Anne Goscinny veut croire que leurs personnages vont continuer à vivre.
Mon père et Albert, on pense qu'ils ont créé une œuvre, mais très bien plus qu'une œuvre. Ils ont créé un mythe. Et un mythe, un jour, on ne sait même plus qui l'a créé. C'est-à-dire que Astérix leur survivra très longtemps à tous les deux.
Et ensemble, Uderzo et Goscinny avaient aussi créé les studios Idéfix sur le modèle de Walt Disney. Il y a 7 ans, Uderzo fatigué avait passé la main à un nouveau duo. Jusqu'à récemment, il supervisait encore chaque page, chaque histoire, acceptant donc que ses héros lui survivent. Ce soir, tout le village gaulois est en deuil.
Mathieu Charrier, le spécialiste d'Europe 1 de la bande dessinée. Et puis on a appris aussi la mort aujourd'hui, causée elle par le Covid-19, d'un saxophoniste formidable, Manu Dibango, âgé de 86 ans, s'est éteint donc des suites de la contamination dans un hôpital de la région parisienne. Un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique tout entière, dit de lui Youssou N'Dour, le chanteur sénégalais qui admirait comme nous à Europe 1 le talent de Manu Dibango, légende de l'afro jazz. Hommage à Manu Dibango qui nous a donc quitté avec cet extrait du tube planétaire Soul Makossa, le saxophoniste Manu Dibango, star mondiale fauchée par le Covid-19 mais dont l'œuvre va nous accompagner encore très longtemps. C'est l'heure de la météo, le temps qu'il va faire demain avec vous Anissa Haddadi et disons-le tout de suite, la France va rester coupée en deux.
Oui, effectivement Stéphane, et ça fait plusieurs jours que ça dure, hein, cette France coupée en deux, avec une frontière toujours la même qui va de Bordeaux jusqu'à Chambéry. Au nord de cette limite, rien à signaler. C'est un ciel dégagé, du soleil qui brille sans aucun nuage demain toute la journée. Et dans l'après-midi, attention, le vent du nord souffle sur l'Alsace et le territoire de Belfort avec des rafales à 50 km/h. Voilà, c'est tout ce que nous avons à signaler sur la moitié nord. Sur la moitié sud, en revanche, c'est un petit peu plus délicat, en particulier sur les Pyrénées. Le ciel est très couvert demain matin avec des averses et des chutes de neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, sur les Alpes du Sud, la Corse, le littoral méditerranéen, là les nuages se développent et ces nuages nous apportent des averses et du vent du nord en rafale jusqu'à 70 km/h. Du coup, avec ce vent du nord qui souffle, les températures demain matin, elles sont en baisse et elles seront négatives. Nous aurons des gelées matinales à Épinal avec moins 4, moins 3 à Clermont-Ferrand et Manosque, moins 1 à Dijon et Besançon, 0 pour Paris, 4 à Bordeaux et 6 à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, ça baisse encore avec 11 à 16 degrés, 11 pour Strasbourg, 16 pour Limoges et 13 pour la capitale.
La météo signée Anissa Haddadi. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com et juste avant, bien sûr, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Philippe Bessé, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Europe 1.
Et à 22h19, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Stéphane.
Wall Street remonte très fortement en attendant le plan de relance budgétaire américain.
Oui, ça flambe littéralement sur le Dow Jones, plus 11,3%, 20 705 points, un très gros rebond, un énorme rebond, puisque c'est la plus forte hausse en pourcentage depuis 1933 aux États-Unis à Wall Street. Donc le Dow Jones ce soir qui se reprend de plus de 11%, le Nasdaq grimpe de 8,1%, 7 418 points. Après la réserve fédérale américaine hier qui a ouvert les vannes monétaires, eh bien le marché attend effectivement l'adoption au Congrès américain de l'énorme plan de relance budgétaire qui pourrait aller jusqu'à 2 000 milliards de dollars pour essayer de se sortir de ce mauvais pas. On a globalement un marché évidemment qui rebondit sur tous les fronts, en particulier les banques, Goldman Sachs plus 14%, JP Morgan plus 12%, Morgan Stanley gagne même 19%. Des rebonds spectaculaires aussi du côté de l'aérien, l'aéronautique avec un plan d'aide qui est attendu, Boeing reprend 21%, le titre avait plongé littéralement ces dernières semaines, American Airlines reprend 35% ce soir. Et United Airlines, plus 26%. Les valeurs de technologie sont en hausse. Elles sont en hausse, mais de façon moins spectaculaire, on va dire, même si Microsoft gagne 9%, Apple 10% et IBM 11%. Le pétrole revient à 27$. Il ne bouge finalement pas ce soir. 27$ le baril de Brent. Et le dollar est stable aussi. L'euro est à 1,0775 face au billet vert.
Alors la bourse de Paris a aussi rebondi de manière spectaculaire ce soir, en progression de plus de 8%, Didier.
Oui, oui, là aussi, hein, on a rebondi à l'image de toutes les places financières de plus de 8% effectivement sur le CAC 40, 8,39%, 4242 points. Il faut rappeler quand même que le CAC avait perdu 40% depuis ses sommets du mois de février, donc c'est un petit rattrapage, hein, si on remet à l'échelle des pertes du mois passé. Ce sont les valeurs d'ailleurs qui ont le plus souffert ces dernières semaines qui se reprennent, l'aéronautique, comme Safran, plus 21% aujourd'hui. Le luxe, Dior, reprend 20%. Kering, 10%. L'automobile aussi, qui avait plongé, comme Renault. Ben, Renault remonte ce soir de 17%. Valeo prend 13% et Peugeot, 10%. Et puis le secteur pétrolier aussi se reprend. Total, plus 15% à la clôture. Le titre perd quand même encore 46% depuis le 1er janvier. Total en hausse, donc ce soir, de 15%.
Exception du jour, Didier Hamon. Le titre Vinci qui n'a pas suivi le mouvement de hausse.
Effectivement, oui, c'est encore une baisse pour Vinci. Le groupe perd 6%, 69 euros. Les trois activités du groupe Vinci sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire puisque l'activité aéroportuaire est paralysée en ce moment. Les autoroutes fonctionnent au ralenti, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis le BTP souffre beaucoup et ça donne Vinci encore en baisse de 6% ce soir. Le titre a perdu 34% depuis le 1er janvier dernier. Sur les autres places financières, donc un rebond spectaculaire à Francfort, plus 11%, Madrid, plus 8%, Milan, plus 8% aussi, Bruxelles, plus 7%, et donc le CAC 40 en hausse de 8,39%, 4242 points.
Merci pour ce tour d'horizon très complet, Didier Hamon de boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité écho, Emmanuel Dutheil. Ce soir, vous recevez Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Bonsoir Philippe Besset, vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci d'être en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Ma première question va être très très simple. Est-ce que vous avez déjà connu une telle affluence dans vos pharmacies ?
Alors, j'exerce à Limoux, effectivement, dans l'Aude. Nous avons eu une très très forte affluence les lundis et mardis avant l'annonce du confinement par le président de la République. Donc, pour répondre à votre question, ça m'est arrivé d'avoir une telle affluence des jours de grosse épidémie de gastro-entérite. Donc oui, ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'est quand même un événement exceptionnel et ça n'arrive pas de cette manière-là dans toutes les officines de France. Ça ne s'est jamais vu en revanche. Depuis mercredi, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le confinement, l'activité est devenue il y a beaucoup moins d'affluence dans les officines. En revanche, l'activité est différente parce que nous devons faire du portage, nous avons beaucoup d'autres activités, mais il n'y a plus l'affluence que nous avons connue lundi et mardi avant l'annonce du président de la République.
Et est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vendre ? Est-ce que, par exemple, vous avez du gel ? Est-ce que vous avez encore des thermomètres en magasin ?
Nous avons reçu des dotations de masques pour les professionnels de santé, ils sont rationnés. Nous organisons ce rationnement. L'État a enfin admis qu'il y avait une pénurie. Donc nous faisons ça pour les professionnels de santé, mais il n'y en a pas pour les gens. Au niveau des gels hydroalcooliques, effectivement, il n'y en a plus. Dans mon officine, nous fabriquons de la solution, nous en fabriquons un petit peu. Beaucoup d'officines en France fabriquent des solutions hydroalcooliques. Donc ça, c'est un produit qui devrait revenir donc en officine dans les jours et semaines à venir, voilà, sur les gels. Sur les thermomètres, effectivement, il y a également une pénurie, vous avez raison. Et en ce qui concerne les médicaments, nous avons tous les médicaments à notre disposition, sauf l'hydroxychloroquine, donc le plaquénide, qui est utile, vous savez, dans certaines indications, celle du lupus par exemple, des gens qui sont traités de façon chronique et qui, à cause de la polémique actuelle sur l'utilité de ce traitement ou pas dans l'indication coronavirus. En tout cas, nous n'en avons plus pour les traitements habituels.
Et est-ce que vous allez être à nouveau livré en Ivaquine, qui est le nom que la plupart de nos auditeurs connaissent ?
Non, nous ne serons pas livrés. Nous allons avoir très probablement une procédure stricte avec des conditions de délivrance du produit uniquement pour les patients chroniques qui sont sous traitement depuis plusieurs mois.
C'est-à-dire que vous allez être rationné là aussi, comme par exemple on peut l'être sur le Doliprane.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il en est du côté de vos personnels ? Est-ce que les gens viennent travailler ? Il n'y a pas trop de droits de retrait ? Vous n'avez pas trop de gens malades, puisque s'il y a bien des gens potentiellement confrontés à des gens qui ne se portent pas bien, c'est bien votre profession. Comment ça se passe, Philippe Besset ?
Oui, il y a effectivement des personnels qui sont malades. Il n'y a pas eu de droits de retrait. L'ensemble des personnels de l'officine ont été au poste. Ils font leur mission. Je suis absolument scandalisé que les préparateurs en pharmacie n'aient pas été considérés comme des soignants. Donc, pour les préparateurs en pharmacie, donc il faut peut-être dire aux auditeurs qu'il y a deux métiers en officine. Il y a le métier de pharmacien et le métier de préparateur en pharmacie. Ces deux métiers servent la population au comptoir de l'officine. Pour les préparateurs, ils ne sont pas prévus dans les dotations de masques, ils ne sont pas prévus dans les gardes d'enfants des soignants, ils ne sont pas prévus dans les populations qui sont éligibles aux tests. C'est inadmissible, il faut que les préparateurs en pharmacie soient considérés comme les pharmaciens, comme des soignants.
Vous pensez que ça va arriver ? Vous avez une réponse du gouvernement là-dessus ?
Ben, ça fait déjà. J'ai eu une réponse de Jean-Michel Blanquer que j'ai interpellé en public et qui m'a dit qu'il prenait le point. Depuis, pas de nouvelles. J'ai interpellé le ministre de la Santé par courrier la semaine dernière. Et là, nous allons réitérer cette fois-ci tous ensemble avec le Conseil de l'Ordre, avec le président de l'autre syndicat, SPO, pour essayer d'avoir enfin gain de cause.
Est-ce que vous, professionnel, vous allez accorder des primes à tous ces salariés, collaborateurs qui viennent travailler chaque jour et qui font face à une activité là aussi importante ?
Écoutez, nous sommes chambre patronale et chambre patronale majoritaire, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Donc nous attendons ce que le gouvernement va publier en matière de réglementation concernant cette fameuse prime dont il est question. Mais il est probable que nous fassions.
Là, on en connaît les détails. C'est la fameuse prime Macron de 1000 euros qui n'oblige pas dans les petites entreprises comme les pharmacies à mettre en place un plan d'intéressement. Donc ça y est, on connaît le mode de fonctionnement.
Alors il a été effectivement dit, mais il n'a pas été publié au journal officiel. C'est ça que je vous dis. Donc nous attendons sa publication au journal officiel pour en être certain. Mais il est probable que mon organisation fera une recommandation patronale pour que les officines donnent cette prime à leurs salariés.
Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous, pharmaciens, vous êtes assez soutenu dans cette crise parce qu'on entend le désarroi des soignants. Est-ce que vous, pharmaciens, maillon essentiel de cette chaîne de soins, vous avez le sentiment d'être suffisamment soutenu ?
Écoutez, nous sommes soutenus par la population, c'est tout ce qui nous importe. Après, on a un travail à faire. Je n'ai pas utilité d'avoir des messages d'encouragement de ministres ou de personnel de voilà. Moi j'ai besoin du soutien de la population et j'ai le sentiment que nous l'avons. Donc oui, j'ai le sentiment d'être soutenu par la population.
Eh bien un grand merci Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
À demain Emmanuel Dutheil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Tous les soirs, on s'offre une revue des unes de vos quotidiens qui paraissent demain. Nord Littoral s'arrête sur ces dentistes qui ont fermé leur cabinet à cause du confinement, mais qui s'organisent et créent une permanence pour donner les soins dentaires d'urgence tous les jours. Alors que la une de Ouest France est barrée d'une interrogation qui nous préoccupe tous. Un confinement jusqu'à la fin avril, s'interroge le quotidien régional, avec cette photo montrant deux voisines accrochées à leur balcon, comme on peut l'être à l'espoir de retrouver dans quelques semaines le bonheur simple de se balader à l'air libre et sans attestation quand cette fichue crise sera derrière nous. Même s'il faudra attendre un été de plus pour vivre à fond le spectacle qu'offrent les Jeux Olympiques reportés, ce qui n'est arrivé que trois fois depuis que Pierre de Coubertin a relancé ce rendez-vous international, c'est ce que souligne Marc Wilbe dans l'Alsace. En 1916, 1940, 1944, en raison des deux guerres mondiales, le sport logiquement à l'arrêt et qui doit montrer toute sa solidarité dans cette guerre contre le coronavirus. Le report des JO en fait partie, note encore l'éditorialiste. Une crise sanitaire, nous en parlions dans le journal, qui met à mal nos économies. L'État au secours des champions français, titre Les Échos, qui explique que 200 000 salariés du secteur automobile, par exemple, ne travaillent plus. Une mobilisation historique pour l'économie mondiale que relève également le Figaro, de l'Asie à l'Amérique en passant par l'Europe, avec des sommes astronomiques des États et des banques centrales pour sauver entreprises et employés. Le Figaro qui, c'est à la une, donne des idées aux passionnés de golf pour continuer à progresser en s'entraînant dans leur salon. C'est un dessin qui est à la une de Libération. Obélix porte non pas un menhir mais un virus. Hommage à Uderzo. Et le journal consacre aussi dans son édition de demain un article au petit salaire de la peur. Caissières, éboueurs, livreurs, les moins favorisés, véritable premier de cordée quand les cadres sont confinés, écrit le quotidien. Enfin, une information qui concerne les habitués de cet hebdomadaire satirique du mercredi qu'on aime beaucoup. Le Canard Enchaîné a été réduit à 4 pages pour sa deuxième édition de cette période de confinement. C'est ce qu'a indiqué l'hebdomadaire aujourd'hui sur Twitter. Le palmipède d'ordinaire très attaché au papier a également proposé à ses abonnés qui recevraient le journal en retard de se le procurer sur son site internet à partir de demain. Voilà pour les unes de vos quotidiens, apparaître donc ce mercredi demain matin.